Session de philosophie par le Père Philippe à Saint-Jodard le 10 juillet 1990.
Ici par rapport à hier, et je reprends ça. Que signifie profondément cette analogie, métaphore de Dieu potier? C'est vrai qu'elle revient constamment, hein, à travers toute l'écriture. On voit que Dieu est potier, formant, façonnant la chair de l'homme, le corps de l'homme. Y a-t-il une proximité spéciale de Dieu vis-à-vis du corps de l'homme, unique par rapport au lien de Dieu avec le reste de l'univers? À quoi correspond cette proximité? Est-ce le fait que Dieu intervient avant d'infuser l'âme, de créer l'âme de tout homme qui est conçu? Remarquez qu'on dit que Dieu a façonné l'univers aussi. Bon, c'est pas réservé à l'homme. Je m'étais posé la question. Mais j'ai remarqué que dans les psaumes et dans les livres de la sagesse, c'est dit. Bon. Donc, façonner le corps de l'homme, c'est le geste de Dieu créateur et qui montre que la matière vient de Dieu. La matière n'est pas mauvaise. Même si la matière est pure puissance, même si la matière est source de corruptibilité, en soi, elle n'est pas mauvaise. Elle est ordonnée vers le bien. Bien prendre la pointe entre deux extrêmes. Bon. De fait, l'Écriture nous montre tout de suite l'amour de Dieu pour le corps de l'homme. Alors, je suis tout à fait d'accord que dans ce début de la Genèse, on insiste particulièrement sur le geste de Dieu, le second récit. Le premier récit étant le point de vue de la lumière, de la sagesse de Dieu qui ordonne tout. Le second récit montrant la proximité d'amour de Dieu. Et que Dieu façonne le corps de l'homme montre la proximité de Dieu à l'égard du corps de l'homme. Ça c'est sûr. Et donc, une sollicitude spéciale de Dieu, toute spéciale, pour le corps de l'homme. Et on a l'impression que l'univers est regardé dans sa totalité et que l'homme est regardé dans son individualité. Ça, je crois qu'on pourrait le dire. Vous voyez, l'univers est toujours regardé dans sa totalité. C'est du reste là où rejoint la pensée de saint Thomas à propos du gouvernement divin. Et c'est normal qu'on le retrouve dans l'écriture. Mais pour le bien le discerner, la théologie est là pour nous aider. Il ne faut pas oublier que toute la théologie de saint Thomas nous aide à lire l'écriture. Elle n'a pas d'autre but. Si la scolastique décadente avait dévié ce but, c'est triste. Mais le but de saint Thomas, c'est que toute sa théologie, c'est pour lire l'écriture. Le théologien revient à la parole de Dieu. Et si le théologien médite et réfléchit, c'est pour revenir à la parole de Dieu et la comprendre en profondeur. Mais c'est pas pour le plaisir d'avoir une conclusion théologique. C'est pour nous aider. Or, c'est très très net dans tout le gouvernement divin pour saint Thomas. Il y a un regard de Dieu sur le tout, l'univers, l'univers dans sa totalité. L'univers dans sa totalité, selon tous les pères de l'Église, selon saint Thomas et selon l'Écriture, en premier lieu. Et pour l'homme. Et donc, toute la finalité, je dis ça en théologien, parce que je ne pourrais pas le dire en philosophe avec autant de force, mais en théologien, je peux le dire. Tout l'univers dans sa totalité est pour le corps de l'homme. Chef-d'œuvre de Dieu, le corps uni à l'âme. On est chef-d'œuvre de Dieu. On l'a très abîmé, mais on est quand même le chef-d'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est pas les anges. Les anges sont chef-d'œuvre de Dieu du côté de l'intelligence. Et l'homme est chef-d'œuvre de Dieu du côté de la communication de l'amour. Donc du côté de la communication de la bonté. Si Dieu n'avait été que lumière, il n'aurait pas créé l'univers physique. Il aurait créé des anges. Mais Dieu est amour. Il veut que l'œuvre de la création soit avant tout une œuvre d'amour. C'est une œuvre d'intelligence, c'est une œuvre de lumière, c'est une œuvre de sagesse, mais c'est avant tout une œuvre d'amour. Et c'est pour cela qu'on peut dire, voyez, en regardant attentivement l'Écriture, on peut dire que Dieu ne s'est pas arrêté à la création des anges, bien qu'esprit, il était normal presque qu'il crée les anges. C'est assez invraisemblable qu'un Dieu qui est esprit crée la matière. Alors pourquoi fait-il ça? Pour communiquer grâce à la matière plus l'amour. Puisqu'il ne peut pas communiquer aux anges le mystère de la fécondité. Les anges étant de pur esprit ne peuvent pas être source de vie, métaphysiquement parlant. Donc au niveau de la sagesse de Dieu, il faut des créatures qui sont esprit et corps, esprit et matière, qui puissent devenir source de vie. C'est quelque chose de très grand, ça. Et ça fait comprendre pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté à la création des anges. Parce qu'il a voulu aller plus loin dans la communication de son amour et de sa bonté et de la vie. Donner aux créatures d'être source de vie par la fécondité, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et Dieu l'a fait pour montrer toute sa tendresse et sa confiance en l'homme et la femme. Et pour cela, il fallait la création du corps. Donc vous voyez, dans cette perspective-là, le corps est créé par Dieu pour l'âme, mais tout l'univers physique est pour permettre au corps de l'homme d'exister. Et je crois qu'il n'y a aucune raison de nier cela. Je sais très bien, c'est Freud qui dit ça. Non. Freud dit des choses qui sont assez affolantes. Freud dit que on ne peut plus considérer que l'homme soit au centre de l'univers. Alors il montre les trois grandes attaques successives qui ont été faites. Première attaque, dit Freud, la Terre n'est plus au centre de l'univers. Deuxième attaque, l'homme, selon la vision de l'évolution, son corps a été formé par l'animal. Troisièmement, le psychisme de l'homme est complètement détraqué, puisque complexe d'Œdipe qui est au cœur du psychisme. Et il note les trois grandes attaques. C'est assez beau. C'est très fou, mais c'est intéressant, si vous voulez. Ces trois grandes attaques. Alors, il faut répondre à ces trois attaques. On n'a pas le droit de ne pas y répondre. Il faut répondre au plan théologique. Même au plan philosophique, on pourrait répondre. Alors, je reprends. Que la Terre ne soit pas au centre de l'univers, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Personne ne peut prouver ça. Même si la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil tourne autour de la Terre, on ne peut pas prouver que la Terre soit au centre. Parce que il faudrait être en dehors de notre monde physique pour le savoir. Alors on prend des points de référence, ça c'est très vrai. On prend des points de référence. Et même si la Terre n'est pas au centre de l'univers, ça n'a aucune espèce d'importance. La dignité de l'homme, c'est pas la matière. Évidemment, le corps de l'homme est lié à la matière. Mais le corps de l'homme est premièrement pour le théologien. Saint Thomas dit ça avec force. Le théologien s'occupe en premier lieu de l'âme. Et comme l'âme est unie au corps, en second lieu du corps. J'aime beaucoup cette affirmation. Parce qu'elle est très intéressante. Elle montre tout à fait le point de vue différent du théologien et du philosophe. C'est pas contradictoire, pas du tout. Mais ce sont deux points de vue différents. Donc, même si la Terre n'est pas au centre de l'univers, puisque vous n'en savez rien, que vous n'en savez rien, inutile de discuter. Mais même si elle n'est pas au centre de l'univers, ça importe peu. La dignité de l'homme, c'est son âme. Et c'est l'âme qui rend le corps digne et qui le fait le corps d'une personne. Et donc, il donne toute sa dignité. Toute sa transcendance par rapport au corps de l'animal. Et plus on étudie au point de vue biologique, plus on voit qu'on ne peut pas passer de l'animal à l'homme comme ça. Vous savez, à un moment donné, j'ai étudié pendant un certain nombre d'années tout ce problème de l'évolution, parce que je devais en faire une recension d'un livre d'un Canadien de Québec, de l'Université de Laval, un livre intitulé comme ça, « Théorie de l'évolution du point de vue scientifique, philosophique, théologique. » Théorie. J'étais très gêné parce que la préface était faite par un de mes amis, professeur à Québec, le Charles de Coninck, et m'ayant invité, il m'avait demandé d'en faire la recension. Donc il était persuadé que j'allais faire une recension élogieuse. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup ça. J'ai consulté des savants. Au point de vue scientifique. Au point de vue philosophique. J'ai réfléchi. Et au point de vue théologique, j'ai prié. Je ne pouvais pas accepter cette préface. Je ne pouvais même pas accepter le titre. C'est pas une théorie au point de vue théologique. C'est pas une théorie au point de vue philosophique. Et au point de vue scientifique, ça dépend les savants qu'on interroge. C'était très intéressant, cette petite enquête. Parce que des savants que j'interrogeais, c'était des histologues. C'était à Fribourg, je les avais tous sous la main. Je pouvais les interroger facilement. Alors les histologues disaient « Ah, ça c'est une vision philosophique, l'évolution. » Ah, ça m'intéresse beaucoup. Parce que les philosophes disent « C'est en raison de la science. » Ça m'amuse beaucoup quand on se renvoie la balle comme ça. Vous savez, ça fait partie de ces résultats. Et ainsi de suite, vous voyez, je ne rentre pas tout ici. Mais c'est vrai que la dignité du corps de l'homme provient de là. qu'entre le corps de l'homme et le corps de l'animal, il y a un abîme. Alors, je citais, il y avait des philosophes et des savants qui prétendaient à un moment donné qu'on pourrait faire des réserves de sang en élevant des singes très supérieurs. J'ai lu ça. Alors, j'ai demandé à ce moment-là à ces savants. Alors, ils ont ri comme tout. Et c'était cité, ça, comme texte. Ah, tiens, ça, on ne peut pas citer ça. Pas possible. On a cru à un moment. On a cru. Si on vous servait du sang de singe. Ad patres. Je trouve ça merveilleux, tu vois. C'est étonnant, toutes ces études-là, parce que ça oblige de réfléchir sur ces choses-là qu'un bon sens, très 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 rapidement, on est obligé de réfléchir. Alors, peu importe que la Terre soit au centre ou pas, que le corps provienne de l'animal, c'est pas prouvé, c'est des hypothèses. Selon l'Écriture, on a bien l'impression que Dieu reprend tout. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Si je suis attentif au texte de l'Écriture, et je crois, alors moi ça m'a fait réfléchir beaucoup, je crois qu'au plan philosophique, si je veux réfléchir sur la création, ce sont les analogies de l'art et non pas de la science qu'on doit prendre. L'œuvre de la création est une œuvre créatrice de Dieu. C'est pas une œuvre scientifique. Et donc la science ne me dira jamais rien sur la création. Elle ne peut pas. Tandis que l'art peut me donner des analogies. Alors quand je regarde l'art, c'est tout à fait différent. Les artistes se font la main. Quand vous regardez tous les croquis merveilleux que faisait Rembrandt avant de réaliser. On en parlait dans la lecture du réfectoire. Je les ai vus, ça. Il y avait une exposition en Hollande merveilleuse de Rembrandt il y a quelques années, c'est vieux, où tout y était. Alors, il y avait des salles entières sur les croquis de Rembrandt. C'était presque ce qu'il y avait de plus beau. Ils se font la main. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait la même chose? Il ne s'est pas fait la main, vous comprenez bien. Mais il a fait des croquis pour montrer la dignité de l'homme. Je trouve ça admirable de faire des animaux très proches. Très proches. C'est vrai, quand vous regardez dans un jardin zoologique les singes, faites l'expérience une fois. Mettez-vous du côté des singes, regardez les hommes. Mais c'est une expérience très intéressante à faire. Je la fais de temps en temps parce que ça m'intéresse. Vous voyez mieux du reste, vous voyez mieux. C'est intéressant. Et où est-ce que vous vous sentez en plus grande connaturalité? Vous menez à des expériences brutales, ça fait de temps en temps. Mais ça, alors, c'est très sérieux. C'est que toute la philosophie de la création et toute la théologie de la création, ce sont les analogies de l'art. On n'a absolument pas développé la philosophie de l'art en scolastique. Alors, on ne pouvait plus parler de la création. On ne pouvait plus. Il y a une analogie, là, qui est très importante. Et vous voyez bien, ici, c'est une analogie artistique. Le potier, c'est l'artisan. C'est pas du tout scientifique. C'est les comparaisons d'artistes. Et alors, il y a le chirurgien, le potier, le chirurgien. Parce que pour la création de la femme, Dieu s'est fait chirurgien. C'est extraordinaire, c'est encore plus extraordinaire, d'une certaine manière. Alors, ces analogies, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que Dieu a une sollicitude pour chaque homme. unique. C'est son chef-d'œuvre. On ne fait jamais un chef-d'œuvre générique, universel. Jamais. Un artiste sait que chaque pièce est unique. On pourra répéter. Ce sont des répétitions qu'on vendra. Mais chaque œuvre est unique. Eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes uniques pour Dieu. C'est quand même agréable de dire ça, quoi. On ne peut pas changer. On a été aimé d'un amour unique et on a été formé par Dieu d'une manière unique. Quant à notre âme. C'est pour ça qu'au fond, il y a Dieu qui le comprend, vous savez. Les autres, ils nous comprennent très mal, mais Dieu, il nous comprend très bien. Parce que nous provenons de lui, mais on est unique. Alors, je crois que c'est ça l'analogie par rapport au corps. Vous allez me dire, oui, mais le corps humain, il est le même génériquement, autrement, il n'y aurait pas de science biologique. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est l'âme qui fait la personne humaine. Et le corps est informé par l'âme. Et le vieil Aristote, qui n'avait pas la révélation, mais qui avait beaucoup réfléchi sur l'âme et l'âme humaine, dit que le corps humain n'est intelligible que par l'âme. Je trouve ça admirable. Je me souviens avoir enseigné ça, c'était à Fribourg, dans un séminaire sur le De Anima. Il y avait là un grand d'Espagne. Tout à fait un grand d'Espagne. Docteur en biologie de Genève. Il venait parce qu'il voulait demander un conseil pour sa vocation. La communauté Saint-Jean n'existait pas encore. Autrement, j'aurais fait dévier. Il m'a demandé un conseil. Il m'a dit, est-ce que je peux assister au séminaire ? Je dis, mais je comprends que vous assistez au séminaire. Ça vous fera du bien. Parce que vous êtes docteur en biologie, ça, très bien. Et justement, c'est un passage qui vous intéressera particulièrement. Alors, j'ai lu ça, j'ai lu le texte. Puis j'ai essayé de l'expliquer. Je dis, en effet, le corps est en puissance par rapport à l'âme. Et c'est l'âme qui détermine. Et donc, la quiétude du corps humain, c'est l'âme. L'intelligibilité du corps humain, c'est là. Alors il est sorti de là, à la fois furieux, stupéfait, et sachant plus très bien. C'est alors, mon doctorat de biologie, qu'est-ce que ça signifie ? J'ai pas parlé une seule fois de l'âme, parce qu'on m'en a pas parlé, je pouvais pas en parler. Je dis, oui, ce sont des approches. Très bien, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Je suis persuadé que vous l'avez fait avec beaucoup de rectitude sur les approches. Mais vous ne savez pas ce que c'est que le corps humain sans regarder l'âme. Alors je lui dis, écoutez, vous êtes chrétien. Il était chrétien à la manière d'un espagnol. C'est-à-dire, hein, il ne fallait pas y toucher à la fois. Vous êtes chrétien. Pour vous, qu'est-ce qui est principal en vous ? Votre corps ou votre âme ? Ben, c'est mon âme. Votre vocation, c'est votre corps ? Oh. Non, c'est mon âme. Mais alors, toute votre vie, vous l'orientez vers, alors, votre corps ? Ah oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, je n'avais pas pensé. En faisant toute ma thèse de docteur, je n'avais pas pensé. Oui, j'avais fait une barrière, d'une part la biologie, d'autre part ma foi. Oui, mais je dis, mais la philosophie permet peut-être de montrer qu'on peut réfléchir sur l'âme et le corps. Il y a une réflexion philosophique. Et l'âme, ça existe. On y reviendra sur l'âme, vous savez, parce que c'est très important, ces réflexions que j'ai entendues il n'y a pas longtemps encore. C'était un groupe de jeunes théologiens à Paris. Très bien, merveilleux. Il m'avait demandé de leur faire un petit cours sur l'âme. Pour plan philosophique. Alors ils ont écouté. Puis après, ils m'ont dit, mais mon père, c'est très très gênant tout ce que vous dites. Parce que ça n'a plus cours sur le commerce. Je dis, mais c'est sûr, c'est sûr. On ne parle plus de l'âme, on ne parle plus que de la personne. Mais je leur ai dit, je vous défie de parler de la personne au plan philosophique sans parler de l'âme. Là, vous décrivez, très bien, décrivez la personne, mais là, pas du psychologique qui l'emporte, c'est plus de la philosophie. Là, je leur ai dit, mais c'est votre rôle. Si vous avez compris ce que c'est que l'âme, c'est de le remettre sur le marché. Là, ils ont dit, ah non, je crois pas, je connais vous. Ce n'est plus qu'au sur le marché, il faut suivre le mouvement. Alors, on ne parle plus de l'âme. Alors, vous voyez, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que ce texte de l'Écriture, si étonnant, montre cette proximité de Dieu à l'égard de chaque personne humaine. Et chaque personne humaine a une relation particulière avec Dieu. Personnelle avec Dieu. Parce que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Il est le créateur de chaque individu. Il n'est pas le créateur du couple, mais le créateur de l'homme et de la femme pour le couple. Le créateur de chacun. C'est ça qui est très étonnant. Et voyez, le second texte montre bien cela. La création de l'homme en premier lieu, la création de la femme après. Et il fallait montrer que la création de la femme est dernière. Ce que je vous disais hier, la femme et la benjamine. Il y a quelque chose là qui je crois, est très important. Alors, ça c'est le premier moment qu'on doit avoir au point de vue de ce regard sur le point de vue théologique du corps. Le second regard qu'on doit avoir, c'est la question des conséquences du péché, du premier péché. Là, je me place dans la doctrine de l'Église. Je suis en théologien. Ce passage très important qu'on doit relire de temps en temps, parce qu'il est quand même très beau. Il est rude, mais il est quand même très important. La manière dont Dieu punit l'homme et la femme. Ce qui est très extraordinaire dans cette punition, c'est qu'on voit très bien que la punition n'est pas la même pour l'homme que pour la femme. On n'a pas tenu ça compte du tout dans la théologie. On a regardé de façon abstraite, parce qu'on était en théologie scientifique, et on ne l'a pas regardé du tout dans ses applications profondes. Ce qui est important quand même, parce que c'est dit. Vous connaissez bien ce passage, je vous le relis. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il lui dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Je ne l'explique pas, c'est pas tout ce qu'il y a de mythique au point de vue du style. C'est un symbolisme mythique, mais divin, puisque révélé. C'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose de réel. Il faut essayer de comprendre et de dégager. L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre à manger. Vous voyez, la première conséquence du péché, c'est qu'on est incapable de porter la responsabilité de sa faute. Tout de suite. Ça, c'est net. L'homme regarde, Dieu regarde. de se rabattre sur sa compagne. C'est la femme que tu as placée. Et l'accusation, regarde Dieu. C'est la femme que tu as placée près de moi. C'est toi qui l'as placée près de moi. Qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Y avait Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme dit, c'est le serpent. Oui. C'est extraordinaire, cette dégringolade. On ne peut pas aller beaucoup plus bas que le serpent. C'est pour ça que c'est symbolique du serpent. Il rampe. Le corps du serpent. Hein, qui m'a tupé et j'ai mangé. Il avait dit au serpent. Alors, il avait su, vous voyez, il est plein de miséricorde. Parce qu'autrement, s'il était de la justice, il a dit, Adam, c'est à toi que je parle. Et c'est toi qui es responsable de toi. Ça, ça aurait été la justice. Et vous voyez la miséricorde. Tu acceptes cette dégringolade. Il s'adresse au serpent parce que c'est le dernier. Parce que tu as fait. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des gens. Alors, la malédiction, sur ton ventre tu marcheras. Il marche sur le ventre, voilà les petits pieds. Et poussière tu mangeras. C'est évident, parce qu'il est tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera la tête. Et toi, tu la viseras au talon. Je ne m'arrête pas, ça ne nous regarde pas directement dans notre sujet, mais ce sont des textes d'une force. Parce qu'au fond, toute l'écriture ne cesse de montrer cette inimitié. Regardez l'Apocalypse. Enfin, la Genèse, l'Apocalypse. Les deux Assiens. Et vous voyez le serpent antique. Il est antique. Il a 2000 ans. Pas tout à fait même. Le serpent antique, c'est le dragon, c'est l'adversaire. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Faire ton mari se portera ton désir. Et lui dominera sur toi. Et à l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Ah, vous voyez, quand même, c'est très curieux. Si c'est par le corps qu'on est lié au sol, c'est ça qui m'intéresse. Dieu se sert donc du corps pour punir. Maudit soit le sol à cause de toi, dans la peine. Tu ne rien, donc il n'y a plus la même harmonie qu'avant. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a plus la même harmonie qu'avant. Il reste quelque chose qui demeure. La nature de la matière n'a pas changé. Mais dans le conditionnement de l'homme, il y aura une opposition dialectique constante entre la nature et l'homme. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Voyez, le fruit du travail, à la place d'être le pain, devient les épines et le chardon. À la place d'être des céréales et le blé, qu'il fera germer pour toi, tu mangeras l'herbe des champs. conséquence du péché, c'est la mort. Oui, la conséquence du péché se marque sur le corps. Il y a là quelque chose qui est très très net. C'est la marque, conséquence du péché. Et la grande théologie des pères de l'Église, Saint Paul d'abord, parce que Saint Paul a parlé du péché originel, puis les pères de l'Église, puis Saint Thomas, puis le Concile de Trente, a toujours regardé que le péché originel se transmettait par le point de vue du de la procréation, de la production du corps. Je dis ça parce que c'est très important de saisir à la fois le point de vue de la bonté du corps, Dieu créateur, et comment les conséquences du péché vont marquer dans le corps une sorte de déséquilibre, d'inharmonie. Dieu crée l'âme dans un corps qui provient d'Adam et Ève, chefs de l'humanité, et qui ont péché. Et l'âme est infectée de la faute originelle par son union au corps. Ça, c'est la doctrine de l'Église. J'ai pas le droit de dire autre chose en tant que croyant. J'ai le droit de dire que c'est très difficile à comprendre. On vous demande pas de comprendre un mystère. On vous demande simplement de dire oui, il y en a quelque chose de très très mystérieux. Vous savez que sitôt le Concile Vatican II, un groupe de théologiens se sont réunis à la Grégorienne à Rome. Paul VI s'est dérangé lui-même, et à ce moment-là, le pape ne bougeait pas beaucoup. Paul VI s'est dérangé lui-même pour aller voir ces théologiens et leur dire « Très bien, réfléchissez sur le péché originel. Mais n'oubliez pas que le Concile de Trente doit encore être admis et respecté. Ça fait partie de la doctrine de l'Église. » Parce que le Saint-Père savait très bien que c'est toujours autour du péché originel que, actuellement, les théologiens branlent, pour ne pas dire autre chose. Et c'est vrai, je comprends très bien. Et je crois qu'il faut tout de suite, au point de vue chrétien, voir les deux choses. La mort pour le chrétien, donc pour nous, est une conséquence du péché. Est une conséquence du péché. Et c'est important. Et bon, je peux regarder d'autres éléments de la mort. Pour un biologiste, il ne dira pas que c'est la conséquence du péché. Pour un philosophe, il ne peut pas dire que c'est la conséquence du péché. Pour un philosophe, il dira oui. L'âme n'a plus eu assez de force pour porter le corps et le transformer. Les virus extérieurs ont été tellement forts, ils sont arrivés à mettre une désagrégation. Et l'équilibre ne s'est plus fait. Et les dispositions qui maintenaient l'unité ont disparu. On peut donner ces explications, c'est descriptif, ça ne donne pas la raison. Parce que la personne humaine, comme personne humaine, est donnée la dignité de l'âme. Ne peut pas aimer la mort. Je ne peux pas aimer la mort. Je peux désirer voir Dieu. Ah oui, oui, ça oui, très bien. Et que je sais qu'il faut passer par la mort. Mais je ne peux pas aimer la mort. La mort en soi est un mal. conséquence du péché pour le chrétien. Et alors, troisième moment, parce que ça c'est capital, troisième moment pour le théologien. Je vois exprès hein, les nœuds. Troisième moment, le Verbe est devenu chair.
Faire attention. droit de faire n'importe quelle théologie. On n'a pas le droit. Vous savez bien que dans l'Ancien Testament, on lutte toujours contre les attelages. Ils sont pas bien, on n'a tel pas un bœuf et un âne, c'est pas ça. On peut pas lier la foi et puis n'importe quelle opinion. Moi je vais faire la théologie de telle opinion. Mais non, attention, la foi nous donne la vérité. Et la vérité réclame la vérité. Et donc, je dois pouvoir atteindre quelque chose qui soit vrai pour pouvoir faire la théologie. Autrement, c'est un manque de respect par rapport à la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de faire des fantaisies, autrement dit, quand il s'agit de la théologie. Or, la grande vision des pères de l'Église, justement, en faisant le parallélisme des deux Adam, c'est qu'Adam est créé par Dieu comme responsable de toute l'humanité. Il est le chef de file. Il a été créé dans son âme avec une plénitude de grâce. De grâce, de justice originelle. Il est le chef de toute l'humanité. Donc responsable de tout ce que représente l'humanité. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et il est chef de l'humanité par l'alliance avec Dieu de la procréation. Parce que la procréation est une alliance avec Dieu. De l'homme avec Dieu, de l'homme et de la femme avec Dieu. C'est pour ça que la procréation est au-delà du point de vue moral. C'est quelque chose de sacré. Parce que ça touche une volonté de Dieu. Puisque Dieu crée l'âme. Et cette chose inouïe, que Dieu ne veut pas prendre les initiatives, il laisse aux hommes, aux parents, l'initiative. Et Dieu répond à ces initiatives. Alors c'est une des questions aujourd'hui. Jusqu'où Dieu répond à ces initiatives? Y a-t-il des conditions pour comprendre la réponse de Dieu? Vous voyez, ça explique comment l'Église peut dire quelque chose sur le mystère de la procréation. Parce que c'est une alliance avec Dieu. Et que cette alliance avec Dieu, l'Église en a la responsabilité. Comme vis-à-vis de la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir un regard uniquement scientifique sur la procréation. Je ne peux pas avoir un regard uniquement philosophique sur la procréation. Si je suis croyant, je dois avoir un regard de foi. Puisqu'il y a une alliance avec Dieu. C'est très très important ça. Vous voyez, parce que ça fait comprendre que dès qu'on regarde la procréation, on est en face d'un mystère pour le croyant. Et que Dieu a voulu que Adam et Ève soient chefs de l'humanité par la procréation. Et les conséquences de la faute personnelle d'Adam et Ève, faute d'orgueil réalisée dans la désobéissance, faute d'orgueil réalisée dans la faiblesse pour Adam. Il a eu peur de contrarier Ève. Et il a été sensible à cette espèce d'exaltation dans laquelle Ève se trouvait. Les conséquences de cette faute, c'est que toute la descendance d'Adam et Ève et marquer les conséquences de cette faute. Et cette faute, ces conséquences de cette faute impliquent une faute originelle dans l'âme et qui se transmet par le corps. Ça, c'est le concile qui nous dit ça, le concile de Trente. Et saint Thomas essaie de montrer que ceci peut se comprendre dès qu'on saisit qu'Adam et Ève sont responsables de toute l'humanité. Ils ont une responsabilité qui s'étend à toute l'humanité. Et alors saint Thomas donne ce petit exemple très simple, que quand de ma main je me sers d'un poignard pour tuer quelqu'un, ma main est coupable parce qu'elle est unie à l'âme. Et chaque membre d'Adam, chaque descendant d'Adam, est coupable parce qu'il est lié à Adam. Pas par lui-même. Et c'est pour ça qu'on dira faute de nature. Et c'est la petite analogie. Non pas du corps mystique, mais de ce qui prépare le corps mystique au plan naturel. Il y a un lien entre tous les hommes qui se fait par la procréation. Par la procréation, il y a un lien radical, fondamental. Et c'est vrai, hein, tous, nous sommes passés dans cet état de petitesse de l'embryon. Et tous, on devra remercier éternellement notre mère de nous avoir gardés. Tous. On a été dans cet état de dépendance radicale. Et ça, ça fait une unité extraordinaire entre les hommes. Et c'est un fondement extrêmement important de comprendre cette unité. Bon, au plan philosophique, on dira tout simplement qu'il y a la même nature, oui, on constate ça. Au plan théologique, on va beaucoup plus loin. Cette unité voulue par Dieu fait qu'il y a entre les hommes un lien mystérieux. Et ce lien, à cause de la faute de nos premiers parents, implique que le chef-d'œuvre de Dieu a été brisé. Il y a un déséquilibre foncier entre le spirituel et le sensible. Et c'est à cause de ce péché, pour réparer cette faute, comprenons bien, c'est dans un pur amour que Dieu fait ça, qu'il faut regarder le mystère de Jésus à la croix, où il prend l'iniquité du monde sur lui. Prenant la place de l'homme pécheur, il s'est fait pécher. Il a pris la place de l'homme pécheur. Il s'est considéré comme nouvel Adam, donc comme le seul responsable en face de Dieu de toute l'humanité pécheresse. Et seul un homme Dieu pouvait faire ça. Et c'est pour cela qu'il a voulu que son corps devienne holocauste d'amour. Nouvelle dimension du corps humain. Qu'il soit brûlé par l'amour. Qu'il soit offert par amour. Et c'est ce corps brûlé par amour, blessé dans son cœur, qui devient l'instrument de grâce. Vous voyez comment Dieu reprend toutes les conséquences. conséquences du péché pour aller jusqu'au bout de la miséricorde et de l'amour.